Bonjour, connaissez-vous les objectifs de développement durable ?
Ils ont été adoptés à l'ONU en 2015 avec la collaboration des citoyens, des associations, des entreprises, des jeunes et des États.
C'est une feuille de route de 17 défis visant à transformer nos modes de vie d'ici à 2030.
Alors on sait, ça paraît loin 2030, mais on est déjà en train de changer de société. Beaucoup de choses bougent déjà et toutes les empreintes que nous laissons ont un impact sur demain.
Il nous reste maintenant 10 ans pour aller vers un système plus durable et désirable.
Et c'est pour ça qu'on a voulu rencontrer des personnes qui ont une autre vision du futur.
Et parmi tous les sujets qu'on aurait pu traiter, on a choisi la mode.
On a choisi la mode parce que c'est partout autour de nous et qu'on peut acheter des vêtements tous les jours si on le souhaite.
Alors que l'industrie textile est aujourd'hui l'une des plus polluantes du monde.
Mais chacun d'entre nous a le pouvoir d'agir sur son mode de consommation et on va en discuter ici.
C'est Gaëlle et Lisa de l'association 4D et vous écoutez Remode-toi. Aujourd'hui, Manon nous accueille au Cano, une association qui soutient les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On vous laisse avec cette conversation.
Bonjour Manon,
Bonjour.
Et merci de nous accueillir au Cano aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et puis expliquer ce que vous faites au Cano ?
Bien sûr, donc je m'appelle Manon Royer, je suis directrice réseau et impact pour l'association Les Cano. Les Cano, c'est donc un projet qui a été créé il y a un peu plus de 3 ans, qui a été impulsé par la ville de Paris. Et notre mission, c'est de soutenir et de fédérer tous les acteurs économiques qui vont mettre au cœur de leur projet l'humain, l'environnement, la solidarité, l'insertion sociale, professionnelle partout en France. Et donc, on les accompagne à travers des programmes qu'on conçoit et qu'on déploie sur l'ensemble du territoire, des programmes de formation, des programmes d'apport d'affaires, des programmes de mise en relation, de structuration de filières économiques à impact. Et donc, on va soutenir ces acteurs et les mettre en réseau avec des collectivités, des institutions, des pouvoirs publics, des grandes entreprises, le monde académique et universitaire et des citoyens.
Qu'est-ce qui a été à l'origine des Cano ? Comment ça s'est construit, ce projet ?
Alors, ce projet, il était dans le programme de la précédente mandature de la maire de Paris. Il y avait l'idée de créer un lieu où pourraient se rencontrer et se réunir les acteurs de cette économie engagée. Donc ça, c'était vraiment le projet initial, d'avoir un lieu. Et puis finalement, le chemin faisant, le projet des Cano s'est aussi diversifié. Et aujourd'hui, on est vraiment sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, oui, accueillir les acteurs qui le souhaitent dans notre bel espace, mais surtout les soutenir, les accompagner et les aider dans leur développement.
Donc en fait, ça s'inscrit vraiment dans une dynamique territoriale. Qu'est-ce que vous faites en lien avec le quartier et plus largement par rapport à Paris ?
Alors ça, c'est une bonne question. Donc le projet des Cano, il a tout de suite été pensé comme étant métropolitain, c'est-à-dire qu'il n'était pas question de s'arrêter aux frontières du périphérique. En fait, nos actions, elles visent à renforcer l'ensemble de l'écosystème national. Donc on va dans différentes régions de France pour présenter nos actions et pour accompagner les structures de l'ensemble des territoires dans leur développement. Et après, on a toujours eu vraiment à cœur de s'inscrire dans notre territoire de très petite proximité, à savoir le 19e arrondissement, puisque dès le démarrage, on a mené des actions en partenariat avec des écoles du quartier, par exemple, que chaque été, on organise des événements donc sur le canal de l'Ourcq, puisqu'on est situé sur le bassin de la Villette, qui sont ouverts à tous, mais donc forcément en priorité aux habitants du quartier. Et on essaye vraiment de les impliquer et de les sensibiliser aux sujets qui sont portés par les structures qu'on accompagne au Cano.
Et donc là, on parle beaucoup des Cano, c'est un lieu qui est très particulier. Et est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur savoir ce que sont les Cano, le bâtiment, et du coup ce que vous en avez fait et quelle a été la logique pour transformer le lieu dans lequel vous êtes actuellement ?
Alors, quand le projet des Cano est né, on a donc cherché un endroit où s'installer. On avait plusieurs critères. D'une part, s'inscrire dans un quartier populaire, d'où le choix du 19e arrondissement. Ensuite, le nord-est parisien est quand même, d'une certaine manière, l'épicentre de cette économie à impact positif. Donc, c'était important pour nous de s'inscrire aussi d'abord dans ce territoire. Et puis, la proximité du canal de l'Ourcq, et donc c'est un endroit qui est très passant, nous permettait aussi de sensibiliser des gens qui ne sont pas forcément avertis ou qui s'intéressent a priori pas à nos sujets. Donc ça, c'était très important pour nous. Et c'est vrai qu'on avait identifié ce bâtiment qui date du 19e siècle, dans lequel il y avait l'administration des canaux parisiens, donc l'administration qui gère le canal Saint-Martin, le canal de l'Ourcq, le canal Saint-Denis, etc. Eux s'étaient installés là et puis ils ont déménagé il y a 10-15 ans. Ce bâtiment était un peu laissé à l'abandon. Il s'y passait pas grand chose, il y avait des projets qui devaient prendre place, puis finalement ça s'est pas fait pour tout un tas de raisons. Et donc nous, quand on a pu réintégrer ce bâtiment, on était super contents. Mais voilà, 10 ans d'inoccupabilité, d'inoccupation, je sais pas comment on dit, forcément, donc c'était des mouches, des rats, du plomb, de l'amiante, de la moquette rose partout et des dégâts des eaux dans toutes les pièces.
D'accord.
Et la démarche de rénovation a été envisagée pour être la plus exemplaire possible. Donc nous, on s'est intégré d'experts parce qu'on n'était pas forcément sachant sur ces questions. Donc on a procédé d'abord à un diagnostic du site. Qu'est-ce qu'on peut conserver? Qu'est-ce qui doit être recyclé? Et si oui, dans quelle filière de recyclage? Si bien que, avec cette méthode, on est arrivé à 95% des déchets liés à la rénovation qui ont été triés, recyclés ou réutilisés sur le site. Mmh. Et pour l'aménagement du lieu, qui fait quand même 1000 m², dans lequel il y a chaque jour plus de 50 personnes qui travaillent quotidiennement et des centaines de personnes qui s'y réunissent chaque jour, on a fait appel à une vingtaine de structures qui produisent du mobilier à partir de matériaux de réemploi. Et donc, on a des luminaires qui sont faits en papier sulfurisé déclassé, donc du papier cuisson. C'est des énormes rouleaux de 500 kilos qui sont écartés par les industriels et qui sont réinventés par un artiste qui s'appelle Junior Fridjaquet. On a des tables qui sont faites par des associations comme Extramuros ou à travers fil qui ont travaillé à partir du bois qui était présent sur le site, donc sur le bâtiment. Et en fait, c'était surtout de montrer qu'on peut vivre et très bien vivre dans un monde où on n'a pas utilisé de nouvelles matières premières pour l'inventer, ce monde, pour le créer.
Et est-ce que c'était facile de trouver tous ces acteurs pour trouver les chaises, les luminaires?
Alors, c'était pas facile, mais voilà, on a fait ce travail de recherche. C'était pas facile forcément de les trouver, par contre, ça a été super facile de collaborer avec ces structures et de les faire collaborer entre elles, puisque j'invite nos auditeurs à venir visiter les canaux, mais il y a une vraie cohérence, c'est beau ce qui a ouais, été fait. Donc voilà, et puis en fait, si tu veux, les 20 structures qu'on a fait travailler initialement, c'est un peu les 20 qui existaient à ce moment-là. Et en fait, à force de faire visiter cette maison à des délégations internationales, à des élus, à des représentants de grandes entreprises, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt pour ces produits, mais que les carnets de commandes de ces 20 structures étaient déjà pleins et qu'elles avaient des difficultés à changer d'échelle ou qu'elles ne le souhaitaient pas, parce que certaines étaient aussi très bien à ce stade d'entreprise familiale. Du coup, bah, c'est la raison pour laquelle, par exemple, on a créé un programme de structuration de la filière du mobilier de réemploi qui s'appelle le Booster Circulaire, qui vise à faire émerger partout en France des nouvelles offres et des nouveaux acteurs. Et donc, depuis 18 mois, on accompagne 15 structures réparties sur l'ensemble du territoire national dans la conception et la production d'une ligne de mobilier en série. Et j'insiste sur le « en série » parce que ce qu'on veut faire au canot, c'est montrer que cette économie à impact, elle peut rivaliser avec l'économie traditionnelle. Donc, elle est capable de fournir de la petite, de la moyenne série et bientôt, on l'espère, de la grande série.
Activité s'insère totalement dans l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable, dans le sens où vous travaillez par l'intermédiaire de partenariats avec différents acteurs de l'économie sociale et solidaire pour pouvoir parvenir à pouvoir changer les nouveaux modes de vie et les modes de consommation et pouvoir ainsi introduire une transition vers un mode de vie plus durable.
Oui, tout à fait. Et en fait, vous êtes un peu une vitrine dans le sens où vous arrivez à présenter tout un tas d'acteurs qui justement s'engagent pour l'économie sociale et solidaire. Et donc en fait, on aimerait bien savoir sur quels objectifs vous intervenez au quotidien.
Alors, au canot, on accompagne, je fais juste une petite précision, on accompagne les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais pas que. C'est-à-dire que nous, on s'appelle la maison d'ailleurs des économies solidaires et innovantes, et cette terminologie, elle nous permet d'embarquer tout ce qui est économie sociale et solidaire au sens de la loi française de 2014, mais on va accompagner plus largement ce qu'on appelle les structures à impact sociétal. Ça, c'est juste une petite précision. Donc, sur les objectifs de développement durable, c'est assez drôle, puisqu'en fait, le premier événement grand public qu'on a organisé en été à l'été, enfin le deuxième, puisque le premier était sur la mode éthique, mais on va en reparler. Le deuxième événement qu'on a organisé, c'était qui a duré 2 mois, juillet-août 2017. On avait mis en place une terrasse devant notre maison qui était ouverte à tout le monde 7 jours sur 7 pendant 62 jours. Et justement, la thématique, c'était les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, on avait thématisé autour des 17 objectifs et chaque jour, on faisait venir des structures qui adressent l'objectif numéro 2 sur zéro faim, des structures le lendemain sur l'égalité entre les sexes, etc., etc. Et donc, ça a alimenté toute notre programmation. Pour revenir aux objectifs de développement durable que nous, on adresse directement, même si indirectement, en fait, on les adresse tous puisqu'on accompagne des structures qui vont les adresser, nous, les canaux, en propre, je pense que c'est l'objectif 17 qui est celui du partenariat pour la réalisation des objectifs puisque, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais les canaux, c'est un catalyseur, en fait. On va mettre en relation ces structures à impact, ce monde de l'économie sociale et solidaire, avec des organisations avec lesquelles elles n'ont pas forcément l'habitude de travailler. Et donc, collectivités, pouvoirs publics, grands groupes notamment. Donc ça, c'est vraiment, je pense, l'objectif qu'on adresse le plus. Et on est convaincu qu'il faut que ces différentes organisations collaborent pour que l'économie sociale et solidaire et l'économie à impact positif montent en puissance. Ça, c'est la première des choses. Et après, à travers nos différents programmes, nos différentes actions, on va adresser d'autres objectifs de développement durable. Je pense par exemple à l'objectif numéro 11, villes et communautés durables. Je vous parlais tout à l'heure de notre programme Booster Circulaire qui vise à aménager des espaces avec du matériau, du mobilier fait à partir de matériaux de réemploi. Ça va dans cette logique. D'ailleurs, c'était l'année dernière, on a refait une terrasse et la thématique, c'était la ville durable. Donc pendant, pareil, 2 mois, il y a plus de 150 structures qui ont participé à cet événement de la terrasse des canaux et qui sont venues présenter leurs solutions pour construire un monde désirable, une ville de demain qui soit inclusive, durable, solidaire. Sur l'objectif numéro 12, consommation et production responsable, c'est ce qu'on fait à travers toutes nos actions de soutien au commerce éthique, par exemple. Alors, on va parler de mode éthique, mais c'est vrai qu'on a organisé 3 festivals de la mode éthique et solidaire. Et là, le prochain, je donne rendez-vous, aura lieu du 13 au 15 juin au canot, ou 14, 15, 16, peut-être, 13, 14, 15, je ne sais plus. Mais enfin, le deuxième, voilà, 13, voilà. Mais par ailleurs, on a mis en place, par exemple, encore une fois, une échelle micro-locale qui est celle de la sortie de métro Stalingrad. Mais c'est un programme qui, on l'espère, pourra être répliqué finalement dans énormément d'endroits en France et dans énormément de villes. C'est ce principe d'inventer des nouveaux commerces de proximité dans des quartiers populaires à des prix abordables, mais où des commerçants s'auto-organise pour partager un espace, donc il diminue les coûts, notamment RH, parce que ça coûte très cher en coût RH d'avoir une boutique qui est ouverte 6 jours sur 7, par exemple. Donc elles vont mutualiser cet espace, elles vont vendre leurs produits. Donc par exemple, dans les 3 kiosques éthiques qui sont installés à la sortie du métro Stalingrad, on a de l'alimentation durable en circuit court, on a des produits d'agriculture urbaine, comme du miel par exemple qui est fabriqué à Paris, on a également des fleurs qui sont plantées, cueillies et assemblées en Île-de-France. Voilà, donc il y a une offre en tout cas assez large, et l'idée, c'est vraiment de réinventer ces nouveaux commerces de proximité et d'offrir, encore une fois j'insiste parce qu'on est dans un quartier populaire, à des prix accessibles, des produits qui soient meilleurs pour la santé des consommateurs et plus respectueuses de l'environnement et de la planète.
Et on peut prendre aussi en compte l'objectif sur l'éducation de qualité, parce que vous proposez beaucoup de formations, que ce soit des personnes qui sont pas forcément des porteurs de projets, qui peuvent assister à des formations pour acquérir de l'aisance pour la communication, sur comment construire son business model.
En fait, on a une série d'ateliers. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part, tous les mois, on organise un atelier pour toutes les questions qui durent une journée, pour tous les gens qui se posent des questions autour de l'entrepreneuriat impact, qui ont potentiellement une idée de projet, mais qui ne savent pas trop comment se lancer, par où commencer, etc. Et donc, on les accompagne sur une journée. C'est des formats de 15-20 personnes. Et voilà, il y a une technique d'animation, des échanges aussi, beaucoup, parce que c'est important quand on est un entrepreneur en devenir, de constater qu'il y a d'autres gens autour de nous qui se posent les mêmes questions, et donc ça rassure, et puis ça permet aussi de s'appuyer sur l'expérience des autres. Donc voilà, il y a ces ateliers, et puis effectivement chaque année on forme plus de 600 structures gratuitement sur tous les métiers de l'entrepreneuriat, et ça c'est des formations qui sont animées par nos partenaires. Intel est expert de la mesure d'impact et donc vient donner de son temps, donc c'est des formations généralement de 3 heures en matinée pour une vingtaine de structures, de porteurs de projets qui vont pouvoir suivre cette formation, poser des questions à l'expert. Je parle de mesures d'impact, mais on a des formations sur les statuts juridiques, la communication, la prise de parole en public, les modèles économiques, etc. etc. Donc en effet, on peut considérer qu'on adresse aussi cet ODD.
Ouais, et donc en fait, on voulait aussi revenir sur le fait que les ODD sont construits avec des cibles à l'intérieur. Donc en fonction des objectifs de développement durable, il y en a de 5 à une vingtaine de cibles. Et entre autres, donc à l'intérieur de donc l'ODD 12 sur la consommation et la production responsable dont tu viens de parler, il y a la cible qui porte sur le fait de d'ici à 2030 encourager les entreprises à adopter des pratiques viables. Vous, c'est un peu ce que vous faites par l'intermédiaire de votre travail. Et du coup, on voulait voir pour discuter avec toi ce que tu avais à dire par rapport à l'action des pouvoirs publics, par rapport au fait d'encourager les entreprises à adopter des pratiques viables. Et de savoir s'il faudrait en faire plus et ce que tu attends.
Alors, y a plusieurs choses. Le gouvernement, à travers l'initiative French Impact, par exemple, portée par le ministère de la Transition écologique, met un coup de projecteur sur des entreprises qui sont déjà structurées, qui ont des offres vraiment... qui peuvent, entre guillemets, rivaliser avec des entreprises conventionnelles qui sont sur le même secteur d'activité. Donc ça, c'est intéressant de montrer, entre guillemets, ces success stories, de les mettre en lumière, de les valoriser. Ça, c'est une première chose. Et je pense que là, on n'est pas sur une action de communication qui est vaine, mais au contraire, on est en train d'inspirer des gens, on est en train de montrer que c'est possible. Et moi, je crois beaucoup à l'exemple par le portrait, c'est-à-dire montrer la réussite de tel entrepreneur, montrer la réussite de telle structure. Donc ça, c'est une chose. Après, les canaux, nous, on est en partie subventionnés par des fonds publics, donc de soutenir des structures comme les canaux qui soutiennent indirectement toutes ces structures qu'on accompagne. Forcément, ça a un impact. Et après, vous discuterez avec d'autres personnes qui vous diront « Oui, mais en fait, les subventions, elles s'amenuisent aussi comme peau de chagrin. » Donc moi, je ne suis pas une femme politique. Je pense qu'il y a des vrais enjeux pour consolider, structurer tout cet écosystème qui sont par exemple autour de la mesure d'impact, c'est-à-dire que pour que les modèles économiques soient pérennes, il faut réfléchir vraiment à quel est l'impact de mon projet, parce que c'est autant d'arguments qui permettront de convaincre des investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, de rejoindre l'aventure et le capital de notre projet. Donc je pense que, par exemple, à mon avis, là où devraient investir les pouvoirs publics, notamment, c'est sur cet aspect de mesure d'impact social, environnemental, et ne plus prendre le critère... Enfin, rendre finalement, grâce à cette action d'encourager la mesure d'impact, le critère financier... comme l'indicateur financier, comme n'étant pas le seul et l'unique qui doit prévaloir. De plus en plus d'entreprises s'intéressent aux indicateurs extra-financiers et notamment à l'impact qu'on peut avoir sur la société, sur l'environnement, la création de liens sociaux. Ça, aujourd'hui, c'est peu valorisé et il me semble que les pouvoirs publics pourraient favoriser le développement de méthodologies autour de la mesure d'impact.
Dans l'agenda 2030, il y avait effectivement les objectifs de développement durable sont aussi couplés avec une logique d'inclusion. L'idée est d'arriver à une transition durable et désirable d'ici à 2030, mais sans laisser personne de côté. Vous, dans votre travail au jour le jour, dans le projet que vous menez au Cano, vous avez intégré cette dynamique de non-exclusion
Alors, oui, par exemple, on travaille sur un grand projet autour des Jeux Olympiques de Paris 2024 et on accompagne le comité d'organisation de Paris 2024 dans la réalisation des premiers Jeux inclusifs et solidaires de l'histoire de l'olympisme. Donc ça, c'est un exemple, mais c'est par exemple de se dire très concrètement, sur les 7 milliards d'euros de marchés qui vont être mis en jeu, comment on fait pour que 25% de ces marchés soit alloué à des structures de l'économie sociale et solidaire et que 10% du volume total horaire réalisé dans le cadre de cet événement soit réalisé par des personnes en insertion. Donc nous, on croit beaucoup par exemple au levier de la commande publique pour forcer un peu les choses et se dire en fait il faut que cette société elle soit plus inclusive. Évidemment qu'on n'est pas encore dans une société totalement inclusive, qui a encore plein de choses à faire, mais que ça passe aussi par répartir les marchés et se partager le gâteau, quoi, entre guillemets.
Ben, merci beaucoup. On va terminer notre émission. On va te poser une question un peu prospective. Comment tu perçois la mode en 2050 ?
Alors, la mode en 2050, ce que je peux dire, c'est que chaque année, donc là, ça va être la 4e édition, par exemple, de notre festival de la mode éthique et solidaire, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce sujet, notamment la jeune génération. Voilà, on est conscient des impacts très négatifs de la fast fashion. Il y a eu des grands scandales, comme par exemple le Rana Plaza, qui ont quand même largement sensibilisé les gens. Donc voilà, je pense que les habitudes de consommation se transforment et évoluent dans le bon sens. On achète moins, on achète mieux, on fait attention à qui produit nos vêtements, leur impact sur l'environnement. Et puis, ce qu'on voit, et ça c'est vraiment formidable, de plus en plus d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, et quand je dis jeunes, c'est pas au sens de leur âge, mais au sens de projets qui démarrent, qui proposent des vêtements faits à partir de nouveaux matériaux. Et donc les cuirs végétaux, les teintures végétales, des produits aussi plus durables. J'espère que la mode en 2050, elle sera plus humaine, plus responsable et elle sera quand même toujours aussi belle, parce que c'est à ça que ça sert la mode, c'est à mettre les gens en valeur et à leur donner confiance en eux. Donc si on peut allier esthétisme et inclusion et préservation de l'environnement, c'est formidable.
Ben, merci beaucoup.
Ouais, merci. Merci pour cette
invitation. Ok, ben, avec plaisir. Merci.
On remercie Manon pour le temps qu'elle nous a consacré pour parler des canaux et de son ancrage dans l'économie sociale et solidaire parisienne, et d'avoir réfléchi avec nous à la mise en application des objectifs de développement durable. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir les canaux de Paris, rendez-vous quai de la Seine, le long du canal de l'Ourcq. Et pour avoir plus d'informations sur les leviers de transformation qu'on peut mettre en place dans les 10 prochaines années, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet de l'association 4D, association4d.org, et ou à vous abonner à notre newsletter.
Nos réseaux sociaux sont également actifs. Nous sommes sur Facebook, Instagram et Twitter sous le nom d'Asso 4D.
Et bien sûr, que vous soyez une association, un particulier, une entreprise, vous pouvez adhérer à l'association pour nous soutenir dans nos actions et aller ensemble vers un monde durable et désirable d'ici à 2030.
On vous dit à bientôt !